J'ai dit, Seigneur, j'ai dit ce matin, mon message, j'ai dit, bon, je pensais pas qu'il y aurait eu un PowerPoint. Tout était préparé, mais je vous avouerai que hier soir, moi, j'ai reçu un vidéo. Il était à peu près 6h30. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu circuler sur le web, surtout sur Facebook. Ça se passe au Nigeria. C'est un pasteur avec sa famille qui sont brûlés vifs parce qu'ils ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis pas en train de vous dire d'aller voir ça parce que c'est non. Écoutez, c'est dur. Non, c'est vraiment dur de voir. C'est vraiment dur de le voir là. Je me suis forcé à l'écouter, mais c'est vraiment dur. Puis quelques heures après, je reçois une notification du Journal de Montréal. Je vais vous la lire ce matin, juste quelques brides. Je vais juste le retrouver pour être sûr. Ah non, je ne l'ai pas. OK. C'est un article du Journal de Montréal qui disait que 260 millions, c'est une statistique du ministère Porte Ouverte au niveau de l'Église persécutée, 260 millions de chrétiens de toutes dénominations confondues sont martyrisés à travers le monde en 2019. 260 millions, mais là j'avais les... Je la retrouve pas là. Là-dessus, il y en a des milliers aussi qui sont tués chaque année pour leur foi. Et ils parlent des différents pays, mais de plus en plus, il y a eu moins, on nous dit, selon la statistique, ils savent moins de ceux qui sont décédés, mais au niveau des chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi, c'est incroyable. As-tu là? Est-ce que tu peux me passer ton... Il faut que je vous le lise parce que quand j'ai reçu ça hier, ça va avec mon message de ce matin. Mets la première diapo au niveau du titre. L'Église triomphante. Ça se passe dans Acte 12 où Pierre est en prison et l'Église et les chrétiens sont réunis ensemble dans la prière. Et c'est un moment où dans les Actes, on voit l'Église primitive, il y a beaucoup de persécutions. Et Hérode vient juste de faire tuer Jacques, tué par l'épée. Et hier, je reçois ça, puis il dit, le nombre d'églises ciblées augmente de façon dramatique dans le monde. Et là, je vous dis pas ça pour vous faire peur. Au contraire, pour moi, ça veut me réveiller, puis ça veut réveiller l'Église, que l'Église a besoin d'être unie ensemble, dans la prière, dans l'unité, pour tout ce qui s'en vient. Et ça, c'est daté du 15 janvier 2020. L'Index mondial de persécution des chrétiens 2020 vient de sortir. Que nous montre-t-il sur l'état de la liberté de la religion? Vous savez, on a besoin de changer notre façon de parler, notre façon d'agir même, d'être reconnaissant à Dieu dans le pays dans lequel on est présentement. Vraiment, vraiment reconnaissant. Puis je pense que, puis je me regarde moi, puis je me dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment reconnaissant du pays, de la liberté où j'ai, même ce matin, de vous apporter la parole de Dieu ou de pouvoir arriver à chaque jour que Dieu me donne? Est-ce que je suis conscient de ça? La vidéo hier, là, du pasteur, là. Écoutez, il prêche l'Évangile. On les brûle vivants! On les bat, puis ils sortent du feu, puis on les rebat encore parce qu'ils ont présenté l'Évangile. Puis nous, on a une pleine liberté ici. Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Les arrestations arbitraires de chrétiens et le nombre d'églises ciblées augmentent de manière spectaculaire. 9 500 églises ont été ciblées. Ce sont surtout les chrétiens en position d'autorité qui sont visés, menacés, arrêtés ou assassinés. Une grande partie des populations des pays du classement de l'index manifeste une attitude hostile à l'encontre des chrétiens. Et si ce matin, si tu me dis chrétien, ben, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, dans la possibilité de vivre librement leur foi ou dans leur rapport avec les autorités, ils sont victimes de discrimination et de persécution massive. Au cours de la période prise en compte pour ces analyses, soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, porte ouverte a répertorié 9500 fermetures, attaques, destructions d'églises ou d'institutions religieuses. Là, il nous parle des pays qui sont les plus persécutés. Il parle de la Corée du Nord. Il parle de l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan. Et là, vous allez voir, allez sur Journal de Montréal ce matin, porte ouverte, ou allez sur porteouverte.fr, et toutes les informations sont là. Puis je crois que c'est là pour nous, peut-être nous amener, nous les chrétiens, à dire aujourd'hui, Seigneur, on est dans un pays, on est dans une province, on est dans une ville où on est bien et que la parole de Dieu nous exhorte à prêcher l'Évangile. Puis moi, cette semaine, j'étais dans... Vous savez, on est dans notre 7e journée de jeûne et prière, puis je lisais, plus que je lis au niveau des Actes des Apôtres, je vois l'Église comment elle était, je vois les premiers chrétiens comment ils étaient. Puis Seigneur, moi, qu'est-ce que tu me demandes en 2020? Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Puis là, je voyais ces textes-là de Acte 12. Tournez avec moi dans Acte 12. Mettez, on va tourner la Bible à Acte 12, laissez-la là. Je vais juste vous partager quelques versets après. Puis ce matin, pourquoi l'Église triomphante? Je crois que même en 2020, malgré la persécution que des frères et des sœurs et des églises vivent à travers le monde, nous ici, on a toute une responsabilité, j'ai une responsabilité, mais au-delà de ma responsabilité individuelle, il y a une responsabilité collective. Collective. Et là, je veux nous amener au travers, c'est à 21 jours de jeûne où on est dans notre 7e. J'espère que vous mettez un temps à part. Et si vous n'avez pas de requête de prière ou quoi que ce soit pour vous diriger, en sortant à l'arrière, il y a des feuilles qui sont sur la table certaines directives pour vous diriger au travers la prière durant les deux prochaines semaines. Puis, je disais, Seigneur, j'ai dit, il y a quelque chose pour moi, puis il y a quelque chose pour nous. L'apôtre Paul a dit dans Romains 12, 12. Je vais y aller juste avec quelques versets pour vous. Mais la prochaine, on va... Romains 12, 12. Paul s'adresse à l'Église de Rome. Persévérez dans la prière. Colossiens 4. Persévérez dans la prière, dit Paul. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. De savoir que dans notre reconnaissance, Dieu, malgré ce qui se passe... Est-ce que Dieu a pas vu ce qui s'est passé au Nigeria hier? Ah ben, dans la vidéo, là, il y a quelques années, je pense, cette vidéo-là. Importe la persécution, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Est-ce que Dieu ne voit pas ça? 1 Thessaloniciens 5:17, un verset qu'on connaît bien. Priez sans cesse. Puis souvent, on prend ce verset-là pour l'appliquer à nous seuls. Mais Paul s'adresse à l'Église de Thessalonique. Il dit, priez sans cesse. Et Paul dit à Église le contact, lâche pas, continue, persévère, prie. Continue, Église le contact, à prier. Le 31 janvier, un vendredi soir d'intercession, juste avant de terminer notre 21 jours de jeûne et prière, je vous invite, venez avec notre sœur Gerline, toute l'équipe qui est là, pour prier, pour louer Dieu, puis vous allez voir au travers le message. Donc, Paul nous dit ce matin, lâche pas, continue, persévère dans la prière. Persévère. Et j'avais préparé mon message, puis j'ai eu des phrases qui me sont revenues de quelques années. Je veux juste vous partager quelques phrases pour vous montrer l'importance de voir dans une église. Pourquoi Jésus a dit « ma maison sera appelée une maison de prière » C'est parce qu'il savait ce qui était pour se passer. Écoutez bien. L'Église doit se remettre à genoux si elle veut que cette mission, la mission au niveau d'annoncer l'Évangile, que cette mission produise des effets de grande envergure à travers le monde. Seule une Église qui prie peut changer le monde. Seule une Église qui se tient dans l'unité, qui prie dans la prière, qui persévère, peut changer des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer là, demain matin? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais Dieu me dit, persévère parce que moi, je suis en contrôle. Parce que moi, je suis souverain. Moi, je décide. Quelqu'un a dit, une église qui prie va résister aux attaques du diable. Le diable est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans des couples, il est à l'œuvre dans des familles, il est à l'œuvre dans l'église, il est à l'œuvre dans ton travail. Pour pas que ton témoignage, pour pas que ta vie reflète ce que Jésus veut que tu reflètes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'auteur R.A. Torrey? Ça a été un des bras droits ou un des compagnons d'œuvre de D.L. Moody. Il a dit, la prière, en tant qu'église, fera plus pour rendre l'église ce qu'elle devrait être que toute autre chose que nous pourrions faire. On aura beau vouloir faire toutes sortes de choses pour que les gens viennent et qu'ils sentent bien. On aura beau vouloir faire les meilleurs programmes, la meilleure musique, le meilleur prédicateur, tout ce que vous voulez. Mais si c'est pas baigné dans la prière, s'il n'y a pas de prière en tant que communauté, ça va être des œuvres des hommes. C'est la prière qui prépare l'Église pour la lutte. Savez-vous qu'on est dans une lutte spirituelle? On est dans une lutte spirituelle. Peut-être que ça va bien dans ton couple, peut-être que ça va bien dans ta famille, peut-être que ça va bien dans ton travail, Dieu bénit. Mais il y a une lutte qui va arriver. Et lorsque cette lutte-là, lorsque la tempête va arriver, comment tu vas la vivre? Les gens qui passent leur temps à lutter, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, les gens qui passent tout leur temps à lutter les uns contre les autres ne trouveront certainement pas le temps de lutter contre le diable. C'est pour ça que je dis depuis des semaines, on peut-tu travailler ensemble à l'œuvre de Dieu? On peut-tu s'unir ensemble? On peut-tu continuer à prier ensemble? Oui, Jésus a dit, prie dans ta chambre, entre dans ton lieu secret. Mais oui, Jésus, au travers de la parole, au travers des actes des apôtres, on voit l'importance de prier les uns avec les autres. Une église qui prie dirige la destinée des nations. On est là les premiers à chialer contre nos gouvernements. On est là les premiers à critiquer. Puis là, c'est pas vous ce matin, c'est peut-être moi. On entend parler de M. Donald Trump, le président des États-Unis. On critique Trudeau pour telle affaire. On critique Legault parce qu'on n'est pas satisfait. M'a dit, qu'est-ce qu'un vieux pasteur m'a dit un jour, est-ce que tu pries pour eux? Est-ce qu'on prie pour eux ensemble? Moi, à chaque mercredi, j'essaie de le faire, de le dire aux gens, avec les gens, on prie ensemble. On prie pour nos gouvernements. La parole de Dieu nous exhorte à prier pour ceux qui sont en autorité. Une église qui prie aide à produire une nation qui prie. William Evans a dit, Il serait plus facile de concevoir une ville sans électricité, une ville sans transport, une ville sans service téléphonique, une ville sans distribution d'eau, sans protection de la police, que de concevoir l'Église sans prière. Moi, ça me parle ce matin, mes amis. Ça doit nous parler. Le diable craint ceci plus que tous les autres programmes. Le diable craint une église qui se tient unie dans la prière. Puis on va le voir. Torrey a dit, puis je termine avec ça avant d'aller au texte. Le diable rit doucement en regardant l'église d'aujourd'hui. Et il dit, vous pouvez avoir des écoles du dimanche. Vos groupes de jeunesse, vos églises institutionnelles, vos églises qui grandissent, vos clubs, vos rencontres d'hommes, de femmes. Vous pouvez avoir la plus belle chorale qu'il n'y a pas, vos magnifiques musiciens, vos prédicateurs doués et vos efforts pour occasionner peut-être un réveil. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Mais il tremble. Lorsque des chrétiens s'unissent ensemble dans la prière persistante, efficace et persévérante. Ils n'aiment pas ça. Pierre dit dans son épître, « Mes amis, soyez sages, sobres, afin de vous livrer à la prière. » Paul dit, « Soyez donc sages, sobres, afin qu'on puisse veiller à la prière. » Qu'est-ce que ça veut dire persévérer dans la prière? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église primitive, Actes 2, 42 et 47. Je sais peut-être ce matin, il y en a qui connaissent le texte, mais allez voir, allez relire le texte. Puis dites à Dieu, Seigneur, parle-moi au travers de ce texte-là. Acte 2, 42, où ils persévéraient, les premiers chrétiens. Persévéraient dans l'enseignement, communion fraternelle. Persévéraient dans la prière. Persévérer ensemble. Tournez avec moi dans Acte 4. Acte 4, 31. C'est ma prière. C'est ma prière ce matin. J'ai dit, Seigneur, fais trembler les murs de cette église. Acte 4. On va le lire à partir du verset 23. Et là, c'est encore Pierre qui était en prison. Le texte n'est pas à l'écran. C'est encore Pierre, il était en prison. Les disciples étaient en prison. Et une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, ils sont là et sont en train d'élever la voix. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs qu'ils se produisent des quoi? Des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Je vous lis dans la seconde 21. Et là, c'est bénissant ce qu'on va lire là au verset 31. Quand ils eurent prié, ils étaient là, les chrétiens, ensemble. Est-ce qu'ils priaient ensemble, un chacun leur tour ou importe? Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il s'est passé quelque chose, là. Il y avait un groupe qui était en train de prier ensemble. Moi, je prie qu'il se passe quelque chose dans nos réunions de prière, qu'il se passe quelque chose dans nos vendredis d'intercession, qu'il se passe quelque chose dans nos samedis de prière. Mais ça prend la foi. Regardez bien la prochaine diapo. La foi consiste à refuser la défaite. Moi, je refuse de croire que Dieu peut pas encore sauver en 2020. Je refuse de croire que Dieu peut pas guérir. Je refuse la défaite. Je refuse l'immobilisme. On restera pas sur place. On sera pas une église où il y aura un statu quo. Je refuse la fatalité. Je refuse la pensée selon laquelle les choses n'évolueront pas. Je refuse de croire que l'Église ne grandira pas. Je refuse de croire que l'Église, Dieu, sauvera pas. Je refuse que la solution est inaccessible. Non! Non! J'ai besoin d'y croire. Mais c'est ça, la foi. Est-ce que je vais voir demain matin 250 personnes? Je sais pas, mais j'ai besoin d'y croire parce que je prie pour ça. Je prie pour que des personnes soient guéries. Je prie. Puis on doit prier ensemble. On doit prier ensemble. Et on va regarder vite fait ce matin trois vérités. Trois vérités dans le texte qu'on va lire dans Acte 12. Premièrement, la foi en Dieu. J'ai pas le choix. Si je viens en prière pour demander quelque chose à Dieu, c'est que je crois que Dieu va le faire. Mais maintenant, si Dieu le fait pas, comment je vais réagir? Comment je vais agir? Comment je vais grandir? Troisième vérité dans le texte qu'on va lire de Pierre qui est en prison. L'obéissance à Dieu. Est-ce que je suis toujours obéissant à Dieu? Et on va terminer avec la gloire à Dieu. Tournez, vous êtes dans Acte 12. Acte 12. On va lire d'abord les cinq premiers versets. Parce que l'Église chrétienne qui est là fait face à la persécution. Je trouvais ça intéressant parce que j'étais en train de préparer ça. L'Église fait face à la persécution. Je reçois une vidéo d'un pasteur, sa famille, qui sont tués, martyrisés, battus à mort, brûlés vifs pour leur foi. Persécution. Puis là, je reçois dans la soirée cette annonce-là de porte ouverte où l'Église persécutée, les chrétiens sont persécutés pour leur foi. Acte 12, 5 premiers versets. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, imaginez les Juifs, il y a des Juifs qui étaient là, ils étaient contents de voir ça. Contents de voir qu'on venait de tuer par l'épée Jacques, puis on ravageait l'Église. Après l'avoir fait arrêter et jeter en... Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Là, il n'avait pensé, il savait ce que Pierre avait fait au début des Actes des Apôtres. Si vous vous souvenez, au début des Actes des Apôtres, oui, Pierre avait rejeté Jésus, Pierre avait maudit Dieu, et le coq a chanté, mais Pierre, quand il s'est repenti, quand Pierre, au début des Actes des Apôtres, Pierre, il s'est levé debout, il a commencé à prêcher, puis il disait aux gens, « Repentez-vous! Repentez-vous! » Il parlait de Jésus, il parlait de Jésus à haute voix. Ce Pierre qui était, à un moment donné, qui a rejeté Jésus, ce Pierre était là, debout devant eux. Et là, il aimait pas ça, lui, Hérode, de voir ça. Il a décidé d'arrêter Pierre. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église! On a des gens à l'extérieur qui sont dans des prisons, pas juste des prisons physiques. Ils sont pris dans la drogue, ils sont pris dans l'alcool, ils sont pris dans la pornographie, ils sont pris dans l'adultère, ils sont pris dans toutes sortes de péchés. Ils sont prisonniers. Puis nous, Dieu nous demande à nous, l'Église, de prier. De prier. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Je vais en parler, non, je n'en parlerai pas plus loin, je vais juste vous le dire tout de suite. Avez-vous remarqué le verset 1? Hein? Ils viennent de faire mourir Jacques par l'épée. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jacques est mort par l'épée puis Pierre, on va voir plus loin, il va être délivré? Pourquoi? Souveraineté de Dieu. J'ai dit souvent, Dieu est Dieu. J'ai pas à discuter avec Dieu pourquoi. Si Dieu a décidé que pour Jacques, c'était terminé, c'était terminé. Si Dieu voulait servir de Pierre, de toute façon, Pierre, c'est dans ses dernières étapes où on va entendre parler de lui parce que Paul va arriver. Mais est-ce que Dieu aurait pu arriver puis garder Jacques aussi? Dieu aurait pu garder Jacques aussi avec lui puis dire, Jacques, j'ai besoin de toi pour continuer à présenter l'Évangile. Mais il a décidé que c'était terminé pour Jacques. Et l'Église faisait face à une plus grande persécution. Persécution. Vous pensez qu'est-ce qui se passait dans le cœur de ces Juifs-là, de ces gens-là? Il y avait de la joie dans leur cœur parce qu'on les tuait. Moi, je regardais la vidéo hier là, du pasteur avec sa famille, là. Il n'y a pas personne qui bouge alentour. Je dis pas qu'il tape toutes des mains, là, mais il n'y a pas personne qui réagit alentour. Comment j'aurais réagi, moi? Comment je réagirais, moi, de voir un frère ou une sœur? J'arrive à quelque part, je sais pas, moi, mettons, dans un restaurant, puis je vois un frère chrétien qui se fait bardasser parce qu'il a témoigné de sa foi ou quoi que ce soit. Comment je vais réagir, moi? Comment je vais réagir? Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ces 5 versets-là, si Luc prend la peine de nous dire que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était pour se passer. Première chose qu'on va regarder vite fait, foi en Dieu. C'est ma foi. Ma foi de croire que... Est-ce que les gens ont pas prié pour Jacques? Je ne sais pas, la Bible, elle dit pas. Est-ce que les gens ont prié pour Jacques? Peut-être. Je ne sais pas. Mais sûrement, si le texte nous dit qu'ils ont pris le temps de prier pour Pierre, j'imagine que... Mais Luc veut nous faire rappeler que c'était Pierre. Et j'aime écouter bien. Je fouillais un petit peu, puis quand il dit qu'ils adressaient d'ardentes prières, il y a des versions qui disent « ils ne cessaient de prier ». Savez-vous ce que ça veut dire, ça n'a pas cessé? Je trouvais ça intéressant parce que le mot grec, c'est un terme médical. C'est un terme médical qui décrit, OK, l'étirement d'un muscle jusqu'à la limite. Et ça, c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Quand Jésus était en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent en terre. Ça, ce que ça veut dire que l'Église ne cessait, ça veut dire que l'Église fait donc le maximum d'efforts. Elle fait tout ce qu'elle peut pour se mettre à genoux, pour prier, pour intercéder pour Pierre. Parce que là, Pierre, il pourrait être condamné le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver avec Pierre? Ils savent pas. Ils savent pas. Est-ce qu'il prie pour qu'il passe devant Hérode, devant les avocats, puis tout ce qu'on veut, qu'il puisse avoir être clément envers lui? On le sait pas. Mais il prie pour lui. Mais Dieu a des plans différents. Et ça vous fait pas penser à quelque chose, moi, cette prière-là incessante? Cette prière-là où il ne cessait? La prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques dit. Prière fervente du juste. Et je veux vous dire ce matin, peut-être que t'as arrêté d'y croire. Moi, ça m'est arrivé dans des périodes, je dis, non, Seigneur, pourquoi je prie? Pourquoi on prie les mercredis soirs? Ça fait des années qu'on prie pour des personnes. Des fois, ça m'est arrivé. Mais vous savez quoi? La prière, j'ai besoin de croire qu'encore en 2020, la prière change des choses. La prière peut changer des vies. J'ai besoin de continuer à y croire. J'ai besoin de continuer à mettre toute ma foi, ma confiance, selon la volonté de Dieu. Regardez bien la prochaine diapo. La libération, pas tout de suite le texte, mais la libération de Pierre, parce qu'on va le voir un peu plus loin. La libération de Pierre est due à la prière fervente de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la puissance de Dieu à travers la prière et ils lui ont fait confiance. Il s'est passé du temps où ils ont continué à prier, à intercéder pour Pierre. L'Église sait, puis je dois savoir, mes amis, frères et sœurs, je dois savoir, puis je dois y croire, que l'Église sait que Dieu est le seul qui a le pouvoir et la possibilité de libérer quelqu'un des chaînes de l'esclavage. Vous allez voir tantôt, quand Pierre est en prison, comment il est enchaîné, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a été délivré de ça. Savez-vous que, au travers le texte de Acte 12, c'est la troisième fois que Pierre est en prison pour sa foi? Pierre avait déjà échappé. Vous irez voir dans Acte 5. Acte 5, Pierre était libéré. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, ce court texte-là, peut-être qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais écoute, pasteur, oui, l'Église adressait des prières, mais il y en a 3 000, 5 000 qui se sont convertis au début, là. Combien ce qui était? Je sais pas combien ce qui était. Il était dans la chambre haute. Si on regarde dans la chambre haute, il était dans un endroit, Marie, où ils étaient. Peut-être une centaine, je le sais pas, mais je sais une chose, par exemple. C'est lorsque l'Église, lorsque le corps de Christ, lorsque la famille de Dieu, elle est unie ensemble dans la prière, il y a quelque chose qui va se passer. Puis ça, j'ai besoin d'y croire, ça. Et là, Jacques est tué. On sait pas pourquoi. Pierre est en prison, puis l'Église prie pour lui. Acte 12, versets 6 à 16. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, regardez bien, là. Pierre, il est pas dans une belle prison du Québec, là. OK? Imaginez ça, là. Pierre, parce que là, les autres, ils se sont sûrement rappelés comment Jésus a été sorti du tombeau ou quoi que ce soit, puis ce qui s'était passé auparavant. Pierre, attaché avec des chaînes, dormait entre deux soldats. Je ne sais pas comment vous seriez, vous autres, attaché avec des chaînes entre deux soldats, comment serait ton sommeil? Moi, je me suis posé la question. Savez-vous pourquoi Pierre dormait comme ça? Il était dans la paix du Seigneur Jésus. Il était dans la paix de Dieu total. Si vous vous rappelez le psaume qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. » Paul et Pierre savaient. Ils dormaient entre deux soldats. Il y avait même des sentinelles postées devant la porte qui gardaient la prison. Soudainement, il sort d'où, lui? Hein? Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Je ne sais pas si vous êtes déjà couché dans une noirceur et que là, quelqu'un arrive et qui allume une lumière. Moi, pour moi, ça me réveille. C'est-tu parce que je suis pas en paix? J'ai dit, Seigneur, c'est-tu parce que je suis pas en paix? Pierre, il dort! Il dort! Soudain, un ange du Seigneur survint, la lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Certaines traductions disent, ou certains commentateurs disaient, c'est comme si, hey, Pierre, lève-toi! Lève-toi! T'as un petit coup d'un compte, là. Lève-toi! Tout endormi encore, malgré la lumière. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et lui dit, « Lève-toi vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. Il y a quelqu'un qui disait en rapport avec ce texte-là, « Moi, il me semble être obligé de me lever vite, là. J'aurais pas le temps de mettre ma ceinture puis mes chaînes. Ouais, let's go, on s'en va. Je sors de prison, j'ai plus de chaînes. » Mais Pierre, l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, tes sandales. » Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a obéi. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau, suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. « Hey, je rêve. Je suis dans un rêve. Alléluia, Seigneur, tu me libères. » Non, il croyait avoir une vision. Et là, ils passèrent la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Imagine l'histoire, imagine le contexte, la situation. L'ange lui apparaît. « Ah ouais, habille-toi, mon homme, let's go, on sort. » Les portes s'ouvrent, « Ah ouais, let's go, rendu dehors, pouf! » L'ange est parti. Pierre, il est tout seul, dans la rue. Et là, je me disais, je comprenais pourquoi Pierre il a dit, « Mets ta ceinture, puis habille-toi, mets ton manteau. » Si Pierre était sorti tout de suite, puis que l'ange l'avait abandonné, puis qu'il se retrouve tenu dans la rue, il aurait eu de l'air un petit peu, hein? Je me suis dit, « Ah, OK. » Et là, il se retrouve tout seul, tout seul. Hein? Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. » Parce qu'Hérode, il se préparait pour le lendemain et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Mais là, ce qui est fantastique, il frappa à la porte d'entrée, et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit, « T'es folle, Rhode! » Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, ils furent stupéfaits de le voir. Des fois, on lit, puis on lit vite. Puis moi, je lisais ça, puis je me disais, « Seigneur, j'ai déjà lu ça. » Puis là, regardez l'histoire. Pierre, il est en prison. Une première porte qui s'ouvre, une deuxième porte qui s'ouvre. C'est ces gars qui veulent le tuer qui sont là. Première porte qui s'ouvre, deuxième porte qui s'ouvre. Il arrive devant ses amis chrétiens. La porte, elle s'ouvre pas. La porte, elle s'ouvre pas! Ça fait pas penser à quelque chose, ça? C'est eux autres qui auraient dû ouvrir la porte, elle aurait dû y ouvrir la porte tout de suite. Non. On va continuer l'histoire. Moi, je trouve ça fantastique. Ceux qui veulent le tuer, les portes s'ouvrent parce que l'ange est là, eux prient. Et où ta foi? Et où ta foi? Tu pries pour Pierre. T'aurais dû y ouvrir la porte tout de suite, il me semble. Je sais pas. Moi, je sais pas, moi, il me semble, pasteur André, il était pour être enchaîné, puis on prie pour lui pendant des semaines, puis toc, 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 ça cogne à la porte. Hey, ben non, c'est son ange. Non! Ben, j'aurais-tu fait pareil? Probablement, j'aurais fait comme eux. Je me serais posé des questions. Hein? Wow! Comment j'aurais réagi? Comment je réagirais, moi? Imagine-toi. Comment tu réagirais? T'as prié. Comment tu réagirais? J'aime le verset dans Éphésiens 3:20. Lauriane, Éphésiens 3:20, un verset qu'on aime, toutes les deux. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est Paul qui écrit ça, là. Peut-être, comme je disais tantôt, les gens priaient pour que Paul, vis-à-vis Hérode, quand il était pour être jugé, qu'il puisse être peut-être juste condamné à la prison à vie et non libéré. Mais Dieu peut faire infiniment. Infiniment. Et ma question pour nous, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous prions avec foi? Est-ce que je prie avec foi? Peux-tu vous donner un petit secret? Quatre secrets. Quatre secrets vite fait pour avoir aucun souci en rapport avec votre foi. Quatre secrets pour n'avoir aucun souci avec votre foi. Vous savez, souvent, on dit, Seigneur, augmente ma foi, mais si tu veux pas avoir de soucis avec ta foi, quatre secrets. Premièrement, prie pas. On n'a juste à pas prier comme église. On n'aura pas de soucis au sujet de notre foi. On prie pas. Celui qui ne prie pas n'a pas de soucis de sa foi. Priez mécaniquement. Un peu comme on voit dans la prière du Notre Père. On fait juste réciter des belles paroles, puis ça arrête là. La personne ici a dit, prie seul. Puis là, je me demandais, pourquoi il disait prier seul? Ben oui, parce que quand je prie avec mes frères, quand je prie avec mes sœurs, puis qu'un frère ou une sœur me raconte les victoires, me raconte qu'une telle personne a été gagnée au salut ou un tel, et des fois, ça vient me déranger. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je veux pas le goût d'une fois d'entendre ça, moi, qu'un tel a été guéri. Wow! Pourquoi lui, il guérit pas? Il y a des questions qui se posent. Ou bien donc d'arriver et de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe et de là, de chercher quelque chose. C'est pas Dieu. Mais non, c'est pas Dieu. C'est, vous savez, souvent, on entend parler, t'as été chanceux. Hein? T'as été chanceux. Bon, t'as eu un bon médecin. Oui, peut-être. Mais qui a donné la sagesse, par exemple, à ce médecin-là? Oui, j'ai peut-être été chanceux de ne pas avoir eu. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il dit, j'ai osé avoir un accident, mais il dit, j'ai été chanceux. Dieu t'a protégé. Es-tu capable de le reconnaître, ça? Es-tu capable de le reconnaître? Prochaine diapo, c'est votre foi qui montre en qui vous avez confiance. En qui j'ai confiance, moi? En qui j'ai confiance? Donc, ma foi, elle est où ce matin? En ce 19 janvier 2020, ma foi, elle est où? Ma foi, elle est où en tant qu'individu, mais ma foi, elle est où en tant que collectivité? En tant que collectivité, je veux vous encourager. 2020, on termine, puis regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe là-bas, où l'Église persécutée. Je vous le dis, on a besoin, on va avoir besoin ensemble de prier, puis d'avoir nos réunions de prière. Puis encore là, c'est pas une question de dire, parce qu'un tel peut, l'autre peut pas, moi je peux pas, tu travailles, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand il y a des opportunités, viens à la prière. Puis encore là, j'entends des voix dire, « Ouais, mais j'aime pas ça pour telle raison. » Je lisais cette semaine encore l'importance au niveau de la prière. Viens pas pour l'autre, viens pour le Seigneur. Tu vas voir, tes prières vont changer, ton cœur va changer vis-à-vis tel frère, telle sœur. Va changer au niveau de la réunion de prière. Deuxième des choses. Non, je vais terminer. Je termine ce matin. Robert, y a-t-il un chant pour terminer? Je vais garder ça pour la semaine prochaine. Obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. qu'on puisse chacun de nous, en ce début d'année 2020, de dire, Seigneur, pour moi, ce que je lis dans Acte 12. Est-ce que, Seigneur, si moi je vis ça en 2020, cette persécution-là au Québec, peut-être que je vais chercher des frères et des sœurs pour prier ensemble. Peut-être que je vais chercher un frère, une sœur, un groupe de prière. Peut-être. Je t'invite, viens. Viens les mercredis. Mets à ton horaire le prochain vendredi d'intercession fin janvier, le 31 janvier. Mets-les à ton horaire, le vendredi. Parce qu'on va voir qu'au travers de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Où Pierre va s'évader miraculeusement. Les miracles, là, c'est pas parce que moi j'ai prié, c'est parce que Dieu est intervenu. C'est parce que Dieu est intervenu. C'est parce que j'y ai cru. N'oubliez pas ce que je disais tantôt quand Pierre dit, il ne cessait, ou l'Église ne cessait de prier. Moi, j'ai vu des réunions de prière à des places, là, où on arrivait, là. Je parlais avec quelqu'un ce matin. Je l'ai déjà dit peut-être il y a quelques années, mais il y a une femme chrétienne que je connais dans les années 50-quelques au Québec. Je parle pas, là, de, dans les pays, là, où c'est la persécution, au Québec. Savez-vous qu'il y a des chrétiens au Québec qui ont donné presque de leur vie, qui ont fait de la prison ici au Québec? Il y a des chrétiens, moi, il y a un livre à la maison, là, qu'il y en a. Il y a des chrétiens qui ont fait de la prison pour leur foi. Puis la sœur me disait, elle dit, Luc, elle dit, on était 50 le dimanche matin à l'église, parce qu'à l'époque, c'était automatique. Il y avait une réunion, un culte le dimanche matin, il y avait un culte le soir, il y avait une réunion de prière du mercredi, puis c'était continuellement comme un peu dans les Actes des Apôtres. Puis elle me disait, Luc, on était 50 le dimanche matin, sais-tu combien on était à la réunion de prière du mercredi? On était 50. On était 50. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait des chrétiens et l'Évangile commençait à être proclamé au Québec. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas là. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a perdu, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai perdu, moi? Est-ce que je vais entendre de ce qui se passe comme au Nigeria ou dans ces pays-là? Qu'est-ce que je vais entendre, mes amis? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais entendre? Est-ce que je suis pas prêt à arriver puis dire, Seigneur, je m'engage? Seigneur, je sais qu'il va y avoir des combats, des luttes. Écoutez, j'ai plein de témoignages dans ma tête qui me viennent à l'esprit de chrétiens qui disaient, je vous parle de mercredi soir ou différentes réunions, puis ils disaient, ah, ça me tentait pas. Ça me tentait pas, j'étais trop fatigué. Moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai vécu où ça me tentait pas d'aller à la réunion de prière. Ça me tentait pas. J'étais fatigué, puis là, j'avais toutes sortes de raisons. Puis des raisons, là, tiens, je pouvais en nommer. Puis, vous savez quoi? C'est là où j'ai été le plus béni. C'est là où j'ai entendu des témoignages de frères, de sœurs, où ils ont été les plus bénis d'avoir été là. L'Église ne cessait d'adresser d'ardentes prières à Dieu. À Dieu. Est-ce que je prie pour l'Église persécutée? Je vous ai nommé ce matin, là, 260 millions à travers le monde qui sont battus, martyrisés. Dans la statistique, vous irez lire un peu moins, 34 000 qui sont tués chaque année. Nous, à Mascouche, on est 47 000. Ça veut dire que plus que le trois quarts de ma ville serait tué pour leur foi. Puis là, je dis, Seigneur, moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai vu ça hier, j'ai commencé à prier pour ça. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais-tu arrêter de prier pour l'Église persécutée? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça à partir d'aujourd'hui? Je vous encourage à prendre vraiment ces dernières deux semaines de jeûne et prière. Viens avec nous les mercredis. Tu as de la misère à prier, tu pries pas, c'est pas grave. Viens. Viens pareil. Sois là avec nous. Partage tes requêtes de prière. On va prier ensemble. On va prier pour toi. On va prier, persévérer. On va pas arrêter. Prière ardente. Puis il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. J'ai besoin d'y croire. J'ai besoin d'y croire. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. qu'on puisse courber puis se lever. On va regarder la semaine prochaine comment Pierre, au travers au travers la prison où il était, comment il a été obéissant à Dieu. Est-ce qu'on, j'aimerais ça qu'on puisse prendre juste quelques minutes. On est là tout ensemble, la famille de Dieu. Je vais revenir à Acte 4 où ils étaient là tout ensemble puis ils priaient, ils ont élevé la voix à Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble en ce début d'année encore, même si on est rendu le 19 janvier, en ce septième jour de jeûne, élever la voix à Dieu ce matin ensemble, apporte à Dieu, on va apporter ensemble, chacun dans nos voix. Je veux entendre des voix, des langages compréhensibles ce matin. Je veux entendre des voix s'élever pour des papas, des mamans, des conjoints, des conjointes, des enfants, un travail, la maladie. Est-ce qu'on peut élever nos voix à notre Dieu ce matin? Premièrement, d'être reconnaissant du privilège qu'on a d'être ici dans un lieu sécurisé. Est-ce qu'on peut élever la voix à notre Dieu ce matin avec toute notre louange, toute notre adoration et de pouvoir, dans nos prières, prier, Seigneur, je te prie pour nos autorités, je te prie, Seigneur, pour une conjointe, un conjoint, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever chacun de nous, là où vous êtes ce matin, élevez vos voix vers Dieu et parlez à haute voix, Seigneur. Esaïe dit, ils crièrent à Dieu, Seigneur, viens nous sauver. Est-ce qu'on peut élever nos voix, chacun de nous, ce matin? Est-ce qu'on peut élever la voix à notre Dieu ce matin? Seigneur, je t'apporte un fils, une fille. Je t'apporte un frère, une sœur, Seigneur. Je t'apporte au pied de ta croix, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Je t'apporte, Seigneur Dieu, ceux qui sont malades. Je prie pour notre frère Percy, Seigneur. Je prie pour Jonathan. Je prie pour Pasteur André. Je prie pour tous ceux, Seigneur. Je prie pour Monsieur Alexandre au travers de sa cécité, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Est-ce qu'on peut élever la voix à Dieu ce matin? La Bible a dit que le lieu trembla parce qu'ils élevèrent la voix. Est-ce qu'on peut élever nos voix, Seigneur, plus de 80 personnes ce matin? Alléluia, Seigneur, merci. Seigneur, viens augmenter notre foi. Viens augmenter notre foi, Seigneur. Seigneur, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Les couples ont besoin de toi, Seigneur. Les familles ont besoin de toi, Seigneur. Cette ville a besoin de toi, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, il y a des gens qui sont dans des prisons, Seigneur, intérieurement de leur vie, sont enchaînés par que ce soit la drogue, l'adultère, Seigneur, la boisson, Seigneur Dieu, viens les délivrer, que des chaînes tombent. Seigneur, on élève la toi en étant reconnaissant de chacun de tes bienfaits. Oh, Seigneur, je te prie pour les couples, Seigneur. Garde-les près de toi, Seigneur. Garde-les dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon. Je te prie, Seigneur, pour les parents. Je te prie pour les parents, Seigneur, qu'ils puissent élever et éduquer leurs enfants selon ta parole. Je te prie, Seigneur, de garder nos enfants de toute tentation de piège du monde. Oh, Seigneur Dieu, je te prie pour nos familles dans l'Église, Seigneur. Qu'on puisse continuer à élever nos voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Apporte ton épouse, apporte ton mari, apporte tes enfants au trône de la grâce de Dieu, Seigneur, puis on va continuer. Arrache-les, Seigneur, de ce monde des ténèbres. Arrache nos enfants, arrache les épouses, arrache des conjoints, des frères, des sœurs. Arrache-les, Seigneur, fais tomber ce voile de leurs yeux. Seigneur Dieu, l'Église intercède pour l'Église persécutée à travers le monde. Seigneur, nous, on est ici au Québec présentement, on est bien. On est au chaud, on est à la chaleur, Seigneur, on est là puis on te loue ce matin. Mais je veux prier pour nos frères et sœurs à travers le monde qui sont tués, qui sont maltraités, qui sont en prison pour leur foi. Seigneur, augmente notre foi lorsqu'arrivera la persécution. Oh, Seigneur Dieu, viens ce matin. Viens dans ce lieu ce matin toucher les cœurs. Viens dans ce lieu, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur Dieu, on a besoin de toi. Plus de Jésus ce matin, plus de Jésus ce soir, plus de Jésus demain, plus de Jésus après-demain, plus de ta parole. Oh, Seigneur Dieu, À toi soit toute la gloire. Père éternel, combien je suis reconnaissant pour chaque personne ce matin qui se sont déplacées. Viens bénir, Seigneur, ton Église. Seigneur, c'est ton Église. On travaille ensemble à l'avancement de ton royaume. Mais viens bénir ton Église, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans l'amour, dans l'unité ensemble. Et Seigneur, qu'on puisse continuer à persévérer, prier dans la prière incessante pour toi, mon Dieu. Seigneur, ça nous démontre encore qu'on dépend totalement de toi. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, je te dis merci encore pour ce temps ce matin, malgré les imprévus de tout ce qui s'est passé. Merci pour chaque personne qui s'implique semaine après semaine pour accueillir chaque personne qui vient. Et Seigneur Dieu, moi je prie pour chacune des personnes qui sont devant moi ce matin, chacune d'elles, Seigneur, hommes, femmes, je te les remets entre tes mains, Seigneur. Tu vois leurs besoins, tu vois leur cœur, tu vois des souffrances, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur, que tu puisses avoir la paix dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent avoir continuellement les yeux tournés vers toi. Garde-nous, Seigneur, durant cette continuité du jeûne et de prière, et qu'ensemble, l'Église de contact persévère, Seigneur Dieu, et que, comme il est écrit, comme on va voir plus loin, à chaque jour, Dieu, tu ajoutais à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et je te dis merci. Merci, Père. On va terminer avec ce chant de louange ce matin pour te rendre toute la gloire, mon Dieu. Et c'est par Jésus que nous te prions. Amen.